Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+, tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le soir même à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée avec Nathalie Garraud, co-directrice avec Olivier Saccomano du Théâtre des 13 Vents et tous deux à l'initiative de cet événement, une deuxième édition qui a démarré ce mercredi et qui s'achève le samedi 25, le tout dans 15 structures culturelles et du territoire. Christian Rizzo, arrêtez de tirer sur votre calumet, je l'entends dans mes oreilles. Donc, je disais, la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, 15 structures culturelles du territoire participent pour 23 propositions par des artistes venus de toutes les rives de la Méditerranée. Un vaste programme de spectacles, d'ateliers, de rencontres et de lectures que nous découvrirons en partie avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Avec nous aussi Christian Rizzo, qui nous fait du bruitage, directeur de ICI CCN. Il nous présentera son actualité et le centre chorégraphique est bien sûr partenaire de la Biennale. Bonjour Christian.
Bonjour.
Idem pour notre artiste Paola Stella Mini. De la compagnie Futur Immoral avec Constantinos Rizos qui est en pleine répétition. On va dire. Donc Paola nous dira tout sur leur nouvelle création. Alors, now, c'est ça la prononciation ?
Voilà, right now.
Right now, j'adore. À découvrir du 13 au 15, une programmation de la vignette pour cette biennale. Et vous nous présenterez aussi votre actualité à la Bulle Bleue, où vous êtes artiste associé, d'accord ? Bonjour Paola.
Bonjour.
Alors, Nathalie Garraud, quelle est la genèse de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée ?
Oh, la genèse est assez simple. Elle consiste à avoir eu l'idée, l'envie, le désir très fort de poursuivre nos camaraderies, nos fraternités avec des artistes qu'on a rencontrés dans notre parcours, qui étaient au Liban, en Italie, en Grèce. Et quand on est arrivé ici à Montpellier, ça paraissait assez logique, étant donné la localisation de cette ville, qu'on puisse faire du lieu dont on prenait la direction un endroit où ces artistes-là puissent se rencontrer, puissent présenter leurs œuvres, puissent dialoguer, puissent échanger aussi sur les contextes dans lesquels ils créent, qui sont quand même extrêmement différents. La Méditerranée, c'est un territoire assez petit, mais qui est traversé par des différences majeures, très importantes, quoi, et de contexte, et d'histoire, et de langue. Voilà, donc on s'est dit, le premier mouvement, c'était celui-là, c'est celui de faire hospitalité à d'autres artistes, pour certains qu'on connaissait, et pour plein d'autres qu'on a rencontrés au fur et à mesure du temps.
Oui, oui, oui. Bravo. Alors donc, on va dire que c'est une même famille artistique. Vous êtes vraiment très en empathie avec toutes ces compagnies et ces pays méditerranéens.
Bah, je dirais deux choses. À la fois, le fait que oui, pour nous, Olivier et moi, dans notre parcours, il y a un certain nombre d'artistes dont on se sent proche. Mais je ne sais pas si c'est une histoire de famille. Moi, je dirais plutôt que c'est une histoire de solidarité. Ouais. Qu'il y a une solidarité entre artistes qui s'exerce. Et je pense, Christian pourra le dire aussi, quand on dirige un centre chorégraphique national ou un centre dramatique national, qui sont des lieux qui sont encore dirigés par des artistes, il y a quelque chose quand même qui s'exerce entre des artistes, d'une solidarité, d'un désir de partage. Et ensuite, il y a peut-être les amitiés que nous, on avait avec Olivier, mais le fait que la Biennale soit construite par 15 structures, ça a aussi permis d'élargir complètement le champ, c'est-à-dire de nous faire, nous aussi, rencontrer des artistes proposés par les autres structures. Donc en fait, c'est devenu beaucoup plus large que le point d'où c'est parti.
Oui, oui, oui. Christian, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, mais je trouve que c'est hyper important de sortir la question de la famille parce que moi, c'est pas une question qui m'intéresse du tout, quelles que soient les familles. Et, mais en effet, je pense que c'est aussi une forme de, à la fois de désir et de responsabilité qui se croisent, tout simplement, et que je crois que les lieux qu'on dirige, que ce soit le CDN ou le CCN, il y a une volonté derrière aussi de faire, en effet, lieu d'hospitalité aussi de savoir et d'échange de savoir et de non-hiérarchie, justement, de, je crois, des pratiques et des pratiques théâtrales, performatives, etc. Donc, je crois que c'est ça qui fait une forme d'hétérogénéité qui est plus importante qu'une question, de, justement, d'une famille esthétique. Et puis, qui dit famille voudrait dire qu'on tient des maisons de famille, ce qui n'est quand même pas notre cas.
Contraintes, divorce, enfin plein de trucs qu'a la famille
non,
en fait.
Non mais c'est juste la question de la famille qui m'intéresse.
Oui, oui, oui. Et vous Paola, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet?
Oui, parce que je trouve que c'est un peu, bon, moi je ne dirige pas un lieu mais je suis artiste associée à la Bulle Bleue et c'est un peu la démarche qu'on a souhaité mettre en place depuis notre arrivée comme artiste associée. Tous les projets qu'on a proposés, on a vraiment imaginé de pouvoir profiter de notre statut d'artiste associée pour pouvoir inviter d'autres artistes ou d'autres chercheurs. Et ça a en effet été le cas pour les premières performances qu'on a présentées. Et ça sera le cas pour le projet Fuoco Radio. On profitera pour inviter, pour rencontrer d'autres artistes.
Bien. Alors, Nathalie Garraud, d'où viennent les artistes de cette deuxième édition? Quel pays précisément?
Alors, je crois qu'il y a 7 pays représentés en termes de spectacle. En réalité, il y a beaucoup plus que ça parce qu'il y a un moment, un temps fort au milieu de la Biennale qui s'appelle les rencontres entre artistes où là, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est un peu plus large. Mais en tout cas, pour les spectacles, il y a l'Italie puisque Emma Dante sera ce soir au CDN. J'allais dire au CCN. Je mélange les lieux. Il y a, avec Paola et Costa, la Grèce et l'Italie aussi. Il y a Bachar Murcus qui vient de Palestine. Il y a une compagnie espagnole qui sera présentée au Chez du Terral. Est-ce que j'ai oublié des pays? France, Palestine, Italie, Grèce, Liban. Espagne, Liban, bien sûr, puisque nous, on a une production déléguée aussi d'une autrice et metteuse en scène qui s'appelle Christelle Röder, qui a créé au 13 Vents. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tous les pays. La Tunisie, puisque le concert d'hier soir de Jasser Haj Youssef était à l'Opéra. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout.
Bien. Alors, quel est votre sentiment face à la situation actuelle au Proche-Orient? Vous voulez en dire quelques mots?
Moi, je pense que, enfin, personnellement, je pense que d'abord, il n'y a pas le temps d'en parler, véritablement. D'autre part, je pense qu'il y a d'autres solutions que les guerres, quoi qu'il arrive. Et voilà, je pense que c'est... et que, voilà... Ou est-ce qu'à l'endroit où on est, quelle responsabilité on peut avoir aussi pour accompagner d'une façon ou d'une autre, à la fois comme citoyen, mais aussi comme artiste, en fait. C'est, voilà, ça ouvre, je pense, un chantier qui est absolument énorme. Ce qui est terrible, c'est de se dire que, enfin, aujourd'hui, que ça soit en effet en Palestine, que ça soit en Ukraine, c'est que la présence de la guerre revienne comme un des éléments possibles. C'est absolument terrible. C'est terrible, puisque de toute façon, à partir du moment où il y a des pertes, il y a des pertes. Et ça, c'est une donne sur laquelle on ne peut pas revenir. Donc, on sort toujours perdant d'une guerre, quelle qu'elle soit, et quels que soient les gens qui l'amènent, en fait. Donc, moi, ça me met dans un état. Après, bon, ça pose d'autres questions, en effet, sur l'appartenance à des territoires. Je pense que la question des territoires, c'est une chose qui nous importe beaucoup, sur la question des frontières, de vouloir donner aussi un flou aux frontières volontairement par notre pratique. Donc, des questions, voilà... de territoire sont des questions quand la folie humaine prend le dessus. C'est, enfin, moi je dirais que j'ai pas assez de mots ou pas assez de temps pour trouver les mots. Donc
Et par ailleurs, je pense que ce que ça augmente, c'est le sentiment dont parlait Christian de responsabilité, de faire hospitalité, de faire en sorte que, puisque nous dirigeons des lieux, les œuvres de la pensée, la sensibilité, les questions, y compris celles qui fâchent, puissent être partagées, travaillées dans des espaces qui sont aussi pas des espaces de communication. Moi, je pense qu'on a réellement besoin de l'art, de la profondeur historique qui peut apporter, des déplacements du regard et de la sensibilité, des contradictions qu'ils travaillent pour penser les situations dans lesquelles on se trouve. Donc, et ça, c'est ce... sont les œuvres qui le permettent. Et que nous ayons une responsabilité à porter cette biennale ou d'autres événements, des moments où on invite des artistes, d'où qu'ils viennent, à penser, à réfléchir aussi des processus historiques, parce que dans toute œuvre d'art, il y a une inscription dans un moment historique, il y a une inscription dans un contexte politique. Et donc ça, c'est sûr que la situation en Ukraine, la situation en Palestine... Et beaucoup d'autres situations, la montée des extrêmes droites en Europe, et pas seulement en Europe, mais elle existe aussi en Europe, pas que dans des pays lointains. Voilà, nous confère une responsabilité certainement plus forte qu'à d'autres moments historiques. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on se tienne droit en face des problèmes qui arrivent et qui circulent dans le monde, qu'on ne peut pas ni s'en extraire, ni refuser de les penser. Simplement, nous, on le fait par un biais, qui est celui des œuvres et de l'art, et de la pratique de l'art.
Mais ce qui est important, t'as employé la question de la circulation, la question du déplacement, et ça, c'est vraiment des questions qui sont hyper importantes, parce que à partir du moment où la mobilité des gens n'est pas facile, possible même, je dirais, il faut que la mobilité de la pensée prenne à minimal dessus.
Paola, vous voulez rajouter quelque chose?
Pour moi, c'est un sujet vraiment très délicat, en particulier notre pièce s'appelle Right Now, et du coup, pour moi, m'interroger sur le Right Now. Enfin, j'avoue, j'ai dû vraiment arrêter de regarder les news parce que j'étais en train de rentrer dans un état de dépression assez important. Parce que les nouvelles, surtout, bon, moi, j'ai une position assez claire que je ne vais pas forcément partager, mais de voir tous ces morts chaque jour, ça m'a rempli vraiment d'une douleur que j'ai dû vraiment me protéger.
Oui. Et vous n'êtes pas la seule. Oui. Oui. Alors, on va faire une petite respiration musicale.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. Dovi sta uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te.
Bon, ça fait du bien, non hein?
Pour un vendredi, oui.
Pour un vendredi, ça fait du bien, voilà. Revenons donc à ce soir, vendredi 10 novembre, où certaines auront un dilemme avec cette programmation-là de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée. Parce que voilà, ceux qui ont raté Emma Dante hier, eh bien, vont aller la voir ce soir, c'est à 20h30. Mais il y a aussi la création de Nicolas Fayolle à voir à 19h à ICI CCN.
Je crois qu'on peut voir les deux.
C'est vrai,
vous pensez on s'est coordonné.
Ah ouais.
On a travaillé.
Bon, on a travaillé. Et
j'y ai bien pensé.
Nos horaires habituels, c'est 20h au CDN, mais comme on a fait des programmes communs, à 19h, vous pouvez aller voir Nicolas Fayolle au CCN et ensuite avoir le temps d'arriver au CDN pour 20h30.
C'est génial.
C'est génial. Ça la collaboration.
Oui. Ah, mais oui. Mais voilà, au moins c'est réfléchi, on est bien d'accord. Ça va être serré quand même au niveau du. Parce que pour moi, au niveau moyen de locomotion, c'est.
On vous attend.
Oui, hein. D'accord. Ah bah du coup, je pourrais peut-être voir Nicolas aussi alors. Parce que j'avais vu la présentation, une première présentation là, mais ça donne vraiment envie de le voir abouti. Hein. Alors vous, évidemment, Christian, vous le connaissez bien, puisque on peut dire que c'est un de vos danseurs fétiches.
Tout comme la famille, je ne suis pas non plus fétichiste.
Ouais.
Mais c'est un artiste et un danseur qui a en effet travaillé sur quelques projets avec moi, oui, que j'aime en effet beaucoup.
Oui, et donc là, il présente Faire Fleurir. Vous l'avez vu répéter.
Ah ben, j'ai vu la première hier quand même.
Voilà.
Donc, et puis j'ai suivi aussi un petit peu des répétitions, parce que c'est une chose qui m'importe aussi, quand je peux aussi, d'essayer de pouvoir un peu accompagner certains artistes. Et c'est le cas avec Nicolas Fayolle, où j'ai pu assister à une série de travail. Et je trouve que c'est un super beau projet. En tout cas, je suis très content que Nicolas rebondisse aussi sur sa pratique du hip-hop, particulièrement du breakdance, de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire de continuer à creuser un sillon d'une danse qui, finalement, devient une danse intime. Alors qu'en général, et je dis bien, je mets des guillemets, ça ne se voit pas à la radio, mais j'ai les doigts qui bougent, c'est que cette pratique-là, elle est plutôt, en général, une pratique très extravertie, et que là, on est vraiment dans un rapport aussi avec ce corps qui se met volontairement dans une situation complexe. Je ne vais pas raconter la question de la scénographie. Non. Pour justement pouvoir déployer une forme de fiction, en tout cas dansée, qui n'est, je dirais, que d'une impossibilité physique.
Oui.
J'essaye de pitcher, teaser.
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra enchaîner les deux. Donc, deux mots sur Emma. Il reste de la place, d'ailleurs, pour ce soir. Parce que,
c'est complet.
Évidemment.
C'est complet, mais il y a toujours une liste d'attente qu'on arrive à faire rentrer. On se tasse, on ouvre les strapontins.
Oui, ça vaut le coup de venir, quand même.
Oui, ça vaut le coup, je pense.
En fait,
c'est un des premiers spectacles d'Emma qu'elle a recréé cette année, qui s'appelle Il Tango delle Capinere. Et qui, j'ai du mal à prononcer, Paola, tu peux me corriger.
C'était bien.
Et c'est un spectacle, d'une certaine manière, sur le temps qui passe. Voilà, le temps qui passe, c'est un couple qui se retrouve à un certain âge, toujours ensemble, et qui va remonter dans le temps de cette histoire d'amour. C'est très beau. Après, je pense que beaucoup de gens connaissent le travail d'Emma, qu'on a invité régulièrement. Donc, il y a quelque chose d'une sorte de théâtre dansé, ou pas dansé, mais disons, qui a à voir avec le mouvement des corps, avec le chant ou la danse, au moins autant qu'avec le théâtre. Ce sont des formes quand même toujours un peu particulières. Et là, il y a quelque chose d'une beauté du temps long, et d'une nostalgie aussi, probablement, de ce temps long qui disparaît de plus en plus de nos existences. C'est-à-dire comment, dans un temps très long, une relation, elle se transforme, elle bouge, elle traverse des conflits, des contradictions, et pourtant, elle tient quelque chose.
D'accord. Alors, juste deux mots, Paola, sur l'extrait que nous avons entendu, qui fait partie du spectacle d'Emma. Vous connaissiez la chanson par cœur. Hein?
Bien sûr, Gianni Morandi. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. c'est l'histoire di Gianni Morandi dalle... il dit à sa fiancée de dire à sa mère d'aller chercher le lait, comme ça ils peuvent se rencontrer. Voilà. Ça.
Et donc,
mandare dalla mamma a prendere il latte.
Typique des années 70, c'est ça?
Je pense 60.
60, d'accord. Bon, Christian, pardon, dans le cadre de cette biennale, le théâtre Jean Villard vous a invité à présenter une de vos créations.
Alors c'est oui, et j'en suis très heureux qu'on puisse aussi présenter à l'occasion de la biennale Sakinan Gözecek Batar, qui est donc un titre en turc, qui est un solo qui date de 2012, en fait, qui avait été créé à Avignon en 2012 pour Kerem Gelebek, qu'on a repris du coup cette année, On a remonté là pour... on était à Hong Kong cette année, donc on a remonté à cette occasion-là le solo. Et je suis très 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 heureux, mais vraiment, de présenter, de représenter aussi ce projet, parce que ça paraît sûrement un peu anodin ce que je vais dire, mais il se trouve qu'entre-temps, Kerem Guélébec a vieilli, comme nous tous, et qu'il y a une nouvelle puissance fictionnelle juste... par ce biais, tu parlais du temps long, mais du déplacement dans le temps de ce corps, et la pièce est exactement la même, sauf qu'il y avait une forme de fiction qui était, je dirais, très souterraine à la création, qui apparaît d'elle-même maintenant et qui m'a beaucoup bouleversé. Donc je me suis retrouvé pris dans une chose à laquelle je ne m'attendais pas parce que je connais la pièce, donc finalement je pouvais voir quelque chose que je connais par cœur, sauf que ce décalage, cette maturité qu'a désormais Kerem, bouleverse aussi la pièce, et que toutes les images qui sont produites finalement, qui étaient sur une question d'une forme d'exil, mais qui étaient, comme souvent chez moi, toujours très discret dans les sujets, on va dire, qui sont tapis dans les formes compositionnelles, ben là prend une autre valeur. Bon, je pense qu'aussi on était rattrapé par l'histoire entre-temps depuis. Donc je suis très heureux et je suis aussi très troublé dans le fait, tu parlais que Emma Dante remonte une pièce, et le fait de remonter aussi quelque chose, à quel point ça réactive et des fictions, des imaginaires, et surtout de comment ça dialogue avec le monde actuel. Donc, voilà.
Donc à voir mercredi 22 et jeudi 23 à 19h au théâtre Jean Villard. Signalons que dans la continuité, Kerem Guélébec proposera au public de participer à votre fameux club de danse le vendredi 24 de 19h à 21h. C'est au studio Bagoué, sur réservation, et il vous en coûte entre 7 et 3 euros. Christian, on va essayer.
Donnera aussi un workshop, ce qui est assez rare, oui. Mais il donnera 2 jours de workshop aussi le week-end qui suit les présentations.
D'accord. Le temps avance. J'aimerais quand même, nous restions sur vos spectacles en tournée sur novembre, décembre, janvier, mais très rapidement. Et 2 mots aussi sur votre recréation d'Histoire vraie. On parlait de recréation, mais ça, c'est pour novembre 2024.
Oui, ben, là, on est en tournée avec donc Miramar, la création 2022 qui continue à tourner, la création pour Nicolas Fayolle aussi, donc en son lieu. J'ai monté un projet beaucoup plus trouble, qui est fait aussi pour les espaces publics et pour des salles non équipées. Donc, qui s'appelle « Je vais t'écrire », qui est un duo Nicolas Fayolle et Vania Vano. Et en effet, je suis en train de remonter d'après une histoire vraie pour la saison prochaine et plein d'autres projets qui s'annoncent.
Et oui, et puis toujours votre installation au 104 à Paris.
Absolument.
À voir donc jusqu'au 7 janvier, ce qui s'intitule « Avant la nuit dernière ».
Oui, qui était une installation en fait, qui m'avait été commandée par... La Nuit Blanche et le Palais de Tokyo et la Fondation Hermès, que j'avais créé en 2016 et qui n'avait jamais été remontée puisqu'elle n'avait tourné que 12 heures, le temps de la Nuit Blanche. Et là, on a eu la chance de pouvoir la réinstaller pour quasiment 4 mois, en fait, au 104. Donc voilà.
Nathalie Garraud, présentez-nous les spectacles à l'affiche chez vous pour cette biennale.
Alors au 13 juin, il y a Emma Dante en ce moment. La semaine prochaine, il y a un spectacle de Bachar Murkus, qui est un auteur et metteur en scène palestinien qui s'appelle Milk et qui réunit un groupe de femmes et un jeune homme. C'est particulier parce que Bachar, il est auteur et il a décidé pour cette pièce-là qu'il n'y aurait pas de mots. Voilà. Et c'est lié aussi, je pense, à la question que travaille la pièce, c'est-à-dire quel rapport de transmission il peut y avoir entre des mères et des enfants dont elles savent que probablement ils sont destinés à mourir, notamment dans une situation de guerre. Et donc ça s'appelle Milk parce qu'au début de la pièce, il y a des femmes qui pleurent, des pleureuses, et elles pleurent des larmes de lait. Et donc petit à petit, le plateau se remplit de lait. Donc de ce liquide blanc va émerger un jeune garçon qui représente le fils. Et la pièce... est une sorte de danse ou de chant opératique sur la question du rapport des mères à leurs enfants.
D'accord.
Ça, c'est Milk, et la semaine suivante...
Voilà, le 16 et le 17. Hein.
Absolument. Et la semaine suivante, on a la création de Christelle Röder, metteuse en scène libanaise, qui s'appelle Ordali. Et là, c'est rigoureusement l'inverse, puisque ce sont seulement des hommes, quatre hommes d'une quarantaine d'années, qui se retrouvent dans des ruines. Au Liban, c'est aussi un spectacle qui est né après l'explosion du port de Beyrouth, ou en tout cas suite à l'explosion du port de Beyrouth et à un certain nombre d'angoisses et d'inquiétudes qui sont traversées par la population libanaise. Et ces quatre hommes passent la nuit dans ces ruines et questionnent leur propre histoire et leur désir ou pas qu'elle continue, qu'elle est un possible avenir dans ce champ de ruines dans lequel ils vivent.
Donc Ordali à voir le 22 et le 23 donc au Théâtre des 13 Vents. Toujours dans le cadre de cette biennale, Paola Stella Mini, de Compagnie Futurimora, je dis vous faites un super duo avec Constantinos Rizos et Parizo, donc
c'est mon cousin grec.
Mais on a étudié à Exerce,
sous
la direction de Christian Rizzo.
Et ça c'est pas n'importe quoi comme formation. Hein. Donc vous formez un duo italo-grec et comme vous disiez, vous êtes installé à Montpellier et artiste associé à la Boule Bleue pour 3 ans. Nous verrons votre nouvelle création ce lundi 13, mardi 14, mercredi 15 à la Vignette, où vous atterrissez ici au chanteur des Sex Pistols. Vous voulez bien nous en dire quelques mots ?
Oui, en écoutant Nathalie, je me disais c'est aussi peut-être une pièce avec quatre hommes qui se retrouvent dans des ruines. Mais oui, j'imagine avec le départ toute une autre histoire, mais c'est oui, on a en réalité démarré de vraiment très simplement en dansant sur l'album, le seul album de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, parce que c'est très intéressant. Sex Pistols, c'est très iconique, mais en fait, l'aventure de Sex Pistols a duré de novembre 1975 au 14 janvier 1978, du coup, 2 ans et demi. Et en particulier, en dansant, on s'est retrouvés à sentir une forme de liberté en dansant, sur des mots et des sons des années 70, en quelque sorte anciens. Après, je trouve aussi rigolo, c'était les mêmes années qu'il y avait le punk en Angleterre. On avait aussi Donna Summer qui chantait I Feel Love, ou Raffaella Carrà qui chantait Fiesta. Mais du coup, nous, on est un peu parti de la prophétie en quelque sorte de Johnny Rotten qui dans God Save the Queen qui est no future for you, et du coup on interroge cette question du no future en sachant que en ce moment ça signifiait certaines choses. Qu'est-ce que ça signifiait pour notre génération? Voilà.
Et toujours donc avec votre signature, le mélange des médiums, l'indiscipline esthétique qu'on aime beaucoup chez vous.
Oui, sur la scène, il y a deux musiciens. Les interprètes sont entre musiciens et danseurs, comédiens.
On viendra découvrir ça donc entre le lundi 13 et le mercredi 15 à la Vignette. Une signature esthétique que nous retrouverons, j'imagine, sur vos dates à la Bulle Bleue où vous êtes en résidence. Rendez-vous les
28, 29, 30 à 19h.
Voilà, pour Radio Fuoco, comment vous dites ?
Radio Fuoco.
Fuoco. Oui. Et en clôture, le 1er décembre, une soirée qui s'appelle Incendiaire. Quelques mots avant la fin d'émission.
Oui, nous sommes très très heureux de faire ce projet avec la Bulle Bleue, avec l'équipe de la Bulle Bleue et les ateliers Kennedy. Radio Fuoco est né pendant la pandémie comme un projet en effet qu'on a fait avec une autre chorégraphe, Laura Kirschenbaum, avec l'idée de rassembler autour de nous des désirs des autres artistes, d'échanger avec nos moyens. Et à l'époque, on avait du coup inventé cette radio qui en réalité est devenue une radio fictive, la radio est une excuse pour se retrouver autour du feu avec cette image du feu. Et du coup, ça va être avec les comédiens de la Bulle Bleue. Ça, on va pour le public, ça sera les 28, 29, 30. Ils pourront venir et participer à la construction de l'émission radiophonique. Et il y aura plein de ça va être comme des happenings. Et par contre, le 1er décembre, ça sera incendiaire et il y aura un concert. Et des DJ sets, en particulier on a invité un DJ de l'underground de Bologne qui s'appelle DJ Balli, qui est vraiment très très intéressant et absolument à découvrir.
Bon, on va se régaler, donc prenons note hein, à la Bulle Bleue, donc 28, 29, 30 à 19h pour Radio Fuoco et la clôture le 1er décembre. Il me semble que, pour incendiaire, hein, il me semble que c'est une première avec les amateurs, amatrices des ateliers Kennedy. Hein.
Tout à fait. Le premier, en fait, on a invité une série de... Enfin, on a des invités, dont DJ Balli, et en même temps, il y aura un concert avec les ateliers Kennedy.
D'accord. Alors, on va écouter un petit extrait, vous allez voir, c'est prometteur. Ah oui, alors pardon que je... Donc, c'est... voilà, je montre à mon cher technicien Yann un petit extrait de Fuoco Radio.
Ah oui.
Paola, qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien, ça, c'était une pratique chorégraphique qu'on avait fait pendant une des saisons de Radio Fuoco. On avait comme partition, on devait rigoler pendant 20 minutes. Et voilà.
Et là, c'est avec les comédiens de la Bulle Bleue. Hein.
Non, non, ça, non, c'était pendant la première saison. Mais du coup, c'est une des choses qui pourrait se passer pendant les 3 heures de Radio Fuoco.
D'accord. Alors, on reste sur cette fameuse Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée, jusqu'au 25 novembre. J'aimerais que nous faisions un petit focus sur ce week-end et notamment sur demain samedi, où il se passe pas mal de choses quand même.
Absolument. Il y a plusieurs propositions de plusieurs lieux. Alors d'abord, à Plan Cabane, il y a une proposition de l'Atheline. Qui s'appelle « Nous impliquer dans ce qui vient ». Donc là, c'est vraiment une proposition en espace public à Plan Cabane à 16h. Et ensuite, le soir, au Hangar Théâtre, il y a l'accueil par le Hangar Théâtre de deux propositions différentes. À la fois la restitution du workshop que Bachar Murkus, le metteur en scène palestinien dont je parlais, vient de faire toute la semaine, justement à la Bulle Bleue, avec la troupe de comédiens en situation de handicap de la Bulle Bleue. Il s'avère que c'est une pratique que Bachar a aussi développée en Palestine, dans son propre lieu, de pouvoir travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap. Et quand on a monté le projet de la Biennale, l'idée c'était aussi, avec les autres lieux, de profiter de la présence des artistes étrangers pour inventer, imaginer d'autres types de propositions que simplement les spectacles. Donc vraiment, l'idée, c'est, vous savez qu'au 13 ans, notre projet, c'est de faire venir les artistes pendant un mois. Et sur la Biennale, c'est un peu différent. Bien sûr, tout le monde ne reste pas un mois. Malgré ça, il y a un certain nombre d'artistes étrangers. Ça va être le cas aussi au CCN, où il y a des workshops la semaine prochaine. C'est le cas aussi à l'ENSAD, à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et donc là, Bachar, il a fait ce workshop toute la semaine avec les acteurs de la Bulle Bleue. Et samedi soir, à 18h30 ou 18h, si mes souvenirs sont bons, au Hangar, ils vont donner une petite restitution de ce workshop. Et ensuite, À 19h30, mais je ne suis pas certaine d'être parfaite sur les horaires.
Alors, la restitution là, du workshop, c'est à 18h. Hein. Et après, oui, il y a la Bella de la Baignoire.
La proposition de la Baignoire, voilà, qui est le lieu des écritures contemporaines à Montpellier, qui est aussi partenaire de la Biennale. Puisque l'idée de la Biennale, c'est que des lieux de taille très différentes, de missions très différentes, de disciplines très différentes puissent travailler ensemble. Et Bella, il fait une proposition sur ce qu'ils ont appelé le corps traducteur, c'est-à-dire quels sont les effets sur le corps de la traduction d'une langue à une autre langue. Et là, ce sera notamment avec l'auteur espagnol Carlos Carreras.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Et ça, c'est samedi soir, c'est deux restitutions d'ateliers qui ont lieu.
Oui, on enchaîne, voilà,
mais c'est important,
au Hangar Théâtre, et puis on enchaîne 18h et puis 19h30.
On peut enchaîner les deux, voilà, exactement. Voilà. Et nous, je voulais dire un mot là-dessus, sur le fait que vraiment, tous les partenaires, tous les lieux, on a réfléchi, il y a eu des réunions entre les équipes de direction, mais aussi entre les équipes de relations avec le public, les équipes de médiation, les équipes de communication. Donc c'est vraiment, quand même, je trouve que c'est important de dire que c'est une œuvre collective,
oui,
et qu'on profite aussi des apports que les uns et les autres peuvent faire. Bachar, qui est chez nous, il fait un workshop à la Bulle Bleue. Il y a l'auteur espagnol qui est invité par ailleurs, vient et travaille à la Baignoire, etc., etc. Et par ailleurs, je voulais parler juste d'un petit projet qui commence aujourd'hui, qui s'appelle l'école éphémère et qu'on a développé dans le cadre notamment de la candidature Montpellier Capitale Culturelle Européenne.
Mais on peut encore s'inscrire ou c'est trop tard là?
Non, et là, voilà, les groupes ont été constitués.
C'est une super idée. Oui,
mais quand même, c'est très beau parce, oui, que c'est une école éphémère qui va traverser toute la Biennale, donc de ce soir vendredi, cet après-midi vendredi jusqu'au 25 novembre, qui regroupe des habitants de Montpellier. Donc maintenant que le groupe est constitué, je peux vous dire un peu, il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a aussi des personnes actives et des étudiants qui viennent d'écoles d'art d'autres pays de la Méditerranée. Et cette année, en l'occurrence, il y a des étudiants qui viennent d'Athènes, d'autres qui viennent du Liban et une étudiante qui vient d'Italie. Voilà. Et donc ce petit groupe de 20 personnes va circuler, accompagné par un enseignant-chercheur et journaliste qui s'appelle Victor Inizan. Ils vont faire une sorte de programme pendant toute la Biennale, voir des spectacles, mais aussi avoir des moments de conversation un peu privilégiés avec les artistes sur des questions qui relèvent de la critique, de l'apprentissage des contextes dans lesquels les pièces sont créées. C'est aussi une manière d'accompagner les spectateurs. C'est vraiment une école du spectateur. Et ce qui nous intéressait, c'était évidemment que les habitants de Montpellier puissent être en dialogue non seulement avec des artistes étrangers, mais aussi avec des étudiants étrangers. Ouais.
Quelle chance, ça va être une super expérience, hein, vraiment. Ouais, ouais. Deux mots sur la Truelle, dont ce sera la dernière ce dimanche à Metz. Ça, c'est une programmation du Théâtre National de la scène nationale de Sète.
Je crois qu'il y a encore des dates la semaine suivante à Poussin et puis à la Bulle Bleue.
Oui, tout à fait, le lundi 13 à Poussin.
Voilà. Et c'est un spectacle franco-italien que la scène nationale de Sète a proposé en itinérance parce qu'on se disait que c'était aussi important que la Biennale puisse aller dans d'autres types de lieux que les nôtres, qui sont des lieux plus institutionnels, disons.
Oui.
Voilà, donc ce spectacle, il va circuler pendant les 3 semaines, il me semble, ou 2 semaines de Biennale, dans, oui, différents lieux, salles des fêtes.
Oui. Oui, vous aviez raison, le 21 à la Bulle Bleue, ça sera à 15h.
Exactement.
Donc c'est parfait. Et du coup, on pourra voir à 19h Sakina.
Sakinan.
Nan. Je ne prononcerai pas plus le titre parce que... Hein,
Et pourquoi Sid Vicious, Paola Stella Bini?
Non, pas Sid Vicious, pas du tout, Johnny Rotten.
Ah, parce que c'est écrit Sid Vicious, ah, dans ce que
non,
je disais.
Non, non, j'ai vu...
Ah non, 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 okay. Sid Vicious, je ne le trouve pas un personnage si intéressant.
D'accord.
Je trouve beaucoup plus tragique Johnny Rotten. Mm.
Et que pensez-vous de la volonté de Johnny Rotten de vouloir présenter l'Eurovision pour son pays?
Non, mais c'est... Alors, en fait, c'est pour ça... C'est, en fait, Johnny Rotten, c'est un personnage vraiment tragique, parce qu'il a, entre 75 et 78, il a une lucidité, c'est vraiment... Pour moi, c'est comme Heiner Müller. Enfin, il a un moment de lucidité où il comprend vraiment des choses, où il arrive à les nommer, et il arrive à les nommer dans un enfin, je dirais en restant un mineur, il fait tout un travail sur le langage, distorsion, c'est pour ça right now. Alors que le pauvre Sid Vicious, il est une victime, il meurt d'héroïne à 20 ans. Et après, je trouve que c'est aussi très intéressant, c'est que Johnny Rotten il a fait après aussi dans cette idée de vouloir dans cette tragédie qu'il a vécue en pensant d'avoir pu tuer le rock and roll, et en fait non,
ben non. Et en fait, dans
ce no future que c'était un no future à un certain ordre, en fait il a été complètement intégré, sucé par, et c'est c'est un peu.
En tout cas, moi je suis très content qu'on parle de Johnny Rotten, parce que je trouve que c'est une des plus grandes voix du rock and roll du 20e siècle.
Ah oui, absolument.
Quasiment une voix de jazz, je trouve, à une époque de sa vie, et qui a monté quand même un des meilleurs groupes du monde.
Ah oui,
qui s'appelle
PIL. Oui, absolument. Public Image Limited, c'est absolument.
Je reprends l'émission, pardon.
Mais allez-y, non, mais c'est super. Je sais que vous adorez ça, Rizka. Donc,
non, parce que c'est une figure qui est, assez incroyable, parce que d'abord, c'était quelqu'un qui était par la voix aussi de Malcolm McLaren, qui était quand même le producteur et le sorcier derrière les Sex Pistols. Il y avait aussi toute une relation très très forte au situationnisme, à Guy Debord.
Absolument.
Tout un travail extrêmement politique, d'une invention d'un commercial offensif, parce que quand même la sortie de God Save the Queen, c'est quand même pour le jubilé de la reine.
Exactement, en 1977, le jubilé de la reine.
Ça posait tout à des moments extrêmement précis. C'est l'invention d'un graphisme, c'est l'invention de toute une culture, en fait, qui continue, en fait, à produire quelque chose, en fait. Mm. Et ça, je trouve ça hyper important, qu'on n'oublie pas il reste, et il y en a encore aujourd'hui, je trouve qu'on les met un peu trop de côté, mais qu'il y a quand même des espèces de marginaux, mais qui sont des poètes insensés, qui ne fabriquent pas que leur propre histoire, qui deviennent vraiment des leviers pour libérer des aptitudes. Moi j'ai commencé à faire ce que je fais par Johnny Rotten, en tout cas pas dans le sens. J'ai eu la chance d'être en 78 à Londres et de voir en effet aussi des gens comme Siouxsie à l'époque où Robert Smith était encore à la guitare, etc. Enfin, donc, et tout ça a porté en fait des fruits qui continuent à être actifs aujourd'hui malgré le chamboulement de la standardisation qu'on connaît dans toutes les pratiques. Il y a des figures comme ça dans cette espèce de délire de dandy tragique qui traverse toute une histoire et qui continue à être active.
Et pour nous, la tragédie a été aussi, je peux...
Oui, attendez, je vais juste faire une parenthèse à William. Ça serait bien qu'on trouve un morceau à diffuser, là, qu'on diffusera en fin d'émission. Un morceau des Sex Pistols.
Pour nous, la tragédie, ça a été aussi commencer par... ce personnage qui, quand même... Qu'est-ce qui fait que ça nous parle encore, cette voix, aujourd'hui? Et pour moi, c'est parce qu'elle est vraiment traversée de fantômes. Enfin, c'est une voix qui est traversée des fantômes qui vont de choses très intellectuelles, de Shakespeare, à vraiment des voix révolutionnaires. Par contre, il y a aussi la tragédie de ce personnage qui est... Comment dire, si on le voit juste dans une phase, on pourrait dire qu'il incarne vraiment l'intempestif, le devenir absolu. C'est une sorte de super, un personnage nietzschien. Par contre, après, il y a toute la tragédie de.
C'est drôle parce que j'entendais il y a quelques jours une émission sur Alain Pacadis, donc journaliste de Libération et qui a été vraiment le journaliste du mouvement punk en France, décédé hélas trop tard en 86, héroïnomane et dandy fulgurant. Je l'ai entendu, il a dit à des journalistes donc en 76 que punk voulait dire pute à l'époque shakespearienne. Et en fait, c'est pas du tout vrai.
Ah non,
c'est juste qu'il a inventé
aussi.
Et en fait, pour se moquer des journalistes, que tout le monde a repris cette histoire-là. J'ai trouvé ça très très drôle de réentendre la voix de Pacadis, qui a vraiment consigné tout le mouvement punk français, de réentendre dire ça, c'est-à-dire qu'il s'est encore un dandy cinglé et magnifique et d'une poésie de dingue, qui a pu en effet même faire réapparaître aussi ces questions historiques. Tu vois, dans des personnages comme ça, notamment celle du tragique.
Et si je peux ajouter juste une chose, bon, ça fait partie vraiment de mes réflexions. En fait, en 1975, il y a Pier Paolo Pasolini qui est tué. Et la même année, il avait écrit un article, que c'est le fameux article de Luciole. Dans mon délire, je me suis dit, il avait pu aussi écouter la voix de Johnny Rotten, qui commence du coup en 1975, est-ce qu'il s'est dit, il y a peut-être encore des voix.
En tout cas, en vous entendant, Je me dis, et c'est une question qu'on nous a beaucoup posée à propos de la Biennale, sur qu'est-ce qui réunit les artistes qui sont invités, à part hein, cette espèce de territoire géographique, imaginaire et politique. Mais je me dis, cette année, et ça me touche profondément, tous les artistes, d'une certaine manière, qu'on a invités les uns et les autres, ont des questions historiques, de profondeur de champ. Et en réalité, je pense que c'est une réaction massive au plan de communication tel qu'il se déploie aujourd'hui, qui ont une profondeur de champ quasi nulle. Et en tout cas, une épaisseur historique et une épaisseur intellectuelle très faible. Et donc, il y a quand même quelque chose... Moi, ça me réjouit totalement d'entendre Paola et Christian dialoguer à propos de Johnny Rotten et de me dire qu'il y a d'autres dialogues qui sont en train de se créer.
Ça, c'est pour aller dans ton sens, si je peux me permettre, parce que je rentre de Athènes il y a 2 jours et je suis allé suivre un projet qui m'intéresse parce que moi-même, je m'intéresse à cette figure historique, justement, qui est Raymond Duncan, qui est le frère d'Isadora Duncan, qui avait amené finalement Isadora en Grèce, et c'est de là qu'est née toute la danse d'Isadora Duncan, mais surtout s'ils avaient décidé de vivre à l'époque, comme dans une époque hellénique, et qui ont appris à tout faire eux-mêmes, c'est-à-dire les toges, les sandales, etc., dans une espèce de logique de permaculture, de ne faire que ce qu'ils avaient besoin, etc. Et aujourd'hui, moi, je m'intéresse à cette figure-là, donc historique 1902, l'arrivée de Duncan en Europe, mais je me suis aperçu qu'au Portugal, il y avait Central Electrica qui travaillait sur Raymond Duncan, le Duncan Center, bien sûr, à Athènes, mais aussi les Niam Niam, qui sont des artistes catalans que j'avais invités. Donc en fait, on voit aussi cette puissance de certaines figures historiques qui rejaillissent, parce que finalement, si on regarde bien quelqu'un comme Raymond Duncan, c'était considéré comme un fou. Il a monté une académie à Paris. Enfin bon, bref, c'est vraiment considéré un peu comme un cinglé, sauf que c'est un enseignement aujourd'hui qui nous dit quelque chose sur les limites qu'on voit aussi dans nos façons de travailler et un regard, en fait, qu'on sait qu'on doit réavoir à la fois, bien sûr, sur des questions écologiques, sur des questions de pensée, comment travailler aussi le terrain, nos terrains, pour pas que nos pratiques, en fait, disparaissent. Il faut bien réinventer ce terrain-là. Et je trouve que toutes ces figures... Et ce dont tu parles aussi, Nathalie, c'est-à-dire le regard historique, je pense qu'on rentre dans le 21e siècle d'une façon un peu fracassante, parce que d'abord on a tardé à y rentrer, et là on y rentre d'un coup à toute berzingue, et je pense qu'il nous manque, je crois, parce que je l'entends beaucoup autour de moi, de se recréer comme ça des récits, potentiellement même des fictions, mais qui ont à voir avec une continuité historique pour ne pas se sentir tout simplement orphelin dans le monde dans lequel on arrive.
Oui, parce que tous les dispositifs auxquels on est soumis, et je pense que l'art est un endroit de résistance à ça, sont de pur présent, de pure immédiateté. Donc il y a une vitesse aussi qui empêche les pratiques dans lesquelles nous, on est engagé.
Et de rappeler que la question historique n'est pas un rapport nostalgique et n'est pas un rapport de regarder c'était mieux avant, pas du tout. Ouais. C'est bien une histoire pour pouvoir s'ancrer aussi seul et ensemble sur de la projection vers le futur.
Très bien, je pense que ce sera le mot de la fin, Nathalie.
Non, j'en ai un de Foucault, par exemple, sur cette question. Il dit « Mes recherches historiques ne sont que l'ombre portée des questions que me pose le présent ».
Parfait. Nathalie Garraud, Paola Stellamini, Christian Rizzo, un grand, grand merci. Donc rendez-vous pour cette Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée jusqu'au 25 de ce mois avec la clôture à 7 au Théâtre Molière de 16h à minuit. Je pense que ça va être assez rigolo et très festif. Il y aura de la musique, des lectures, des performances. Là, bon, voilà. Profitez du pass à 30€ pour découvrir 3 spectacles de votre choix valable dans toutes les structures partenaires. Donc, écoutez, toutes les informations, réservations sur le site des 13 vents. Voilà, et on termine donc en musique avec les Sex Pistols. Merci Yann à la technique et merci à vous, chers auditeurs. Bye bye.
Merci.